France Inter, 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le lundi 16 novembre. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la hausse spectaculaire des arrêts maladie de longue durée, plus 30% en un an. Stress, dépression, burn-out, la santé des salariés est mise à rude épreuve. En cette période de crise sanitaire, explication dès le début du journal Agnès, après les autres titres.
Nous avons passé un pic épidémique, estime ce matin le ministre de la Santé, avec des chiffres qui se stabilise. Le Premier ministre reçoit cet après-midi les représentants des cultes après la mobilisation ce week-end des catholiques. L'ouverture aujourd'hui du procès de l'attentat manqué du Thalys. Quand Barack Obama publie ses mémoires, Donald Trump n'a qu'à bien se tenir. Et puis la sélectionneuse de l'équipe de France féminine de foot, de plus en plus dans la tourmente.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50, Léa.
Oui, ils sont 110 à avoir lancé un cri d'alarme. Les maires des quartiers défavorisés se disent cassés par le Covid et ses conséquences économique et demande à Emmanuel Macron de ne pas être les grands oubliés du plan de relance. On reçoit l'initiatrice du texte, la maire de Chanteloup-les-Vignes, Catherine Arnoux, sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, Léa, nous recevons dans le grand entretien de la matinale le secrétaire général de la CFDT, également président de la Conférence européenne des syndicats, Laurent Berger, avec qui vous pouvez dialoguer évidemment, 01 45 24 7000.
France Inter.
Moins d'arrêts maladie, mais des arrêts plus longs. C'est la conclusion de l'enquête annuelle de la mutuelle Malakoff Humanis. Les arrêts de longue durée augmentent donc de 30% et se prolongent en moyenne sur 3 mois. Alors, quel est l'impact du Covid sur l'absentéisme au travail? À première vue, seuls 6% des arrêts de courte durée sont directement liés au virus. Mais l'angoisse liée à la crise économique et sanitaire, les effets du confinement et les conditions de télétravail jouent indubitablement sur la santé des salariés. Explication signée Delphine Simon.
Premier constat, l'allongement des arrêts maladie, un tiers de plus au-delà d'un mois selon l'étude. Les salariés s'arrêtent en moyenne 94 jours. En cause, l'usure, les maladies chroniques chez les plus de 50 ans, dans les secteurs des transports, l'industrie ou le commerce, mais aussi les arrêts pour stress, burn-out ou dépression. Ils ont doublé avec la crise sanitaire, explique Anne-Sophie Godon, directrice de l'innovation chez Malakoff Humanis.
Ils sont quand même aujourd'hui 8 sur 10 à nous dire que ils sont inquiets dans le futur à la fois de l'économie et de leur entreprise. Pour ceux qui ont télétravaillé, des arrêts consécutifs à l'isolement et puis évidemment l'inquiétude pour le risque infectieux.
Si le nombre d'arrêts maladie en général régresse d'un an sur l'autre, cela tient au report des soins en raison du confinement.
On a 8% des salariés, ce qui est quand même très important, qui nous disent avoir reporté des soins qui vont nécessiter un arrêt maladie. Ce report de soins peut conduire à l'aggravation des pathologies. L'état de santé donc sera plus grave et donc que ça nécessitera un arrêt maladie plus long.
Pour enrayer la tendance continue à la hausse, seule solution selon les patrons, il faut agir sur le fond. Actuellement, 4 entreprises sur 10 n'a aucun dispositif contre l'absentéisme.
L'absentéisme de longue durée explose en entreprise. C'est un article à lire sur franceinter.fr. Les propos rassurants viennent ce matin donc du ministre de la Santé. Tout porte à croire que nous avons passé un pic, affirme Olivier Véran dans un entretien à la presse quotidienne régionale. Nous reprenons le contrôle sur l'épidémie. C'est une bonne nouvelle, poursuit-il, tout en insistant sur le fait qu'il est trop tôt pour crier victoire et qu'il ne faut pas relâcher nos efforts. Olivier Véran qui sera ce matin à Lyon pour assister à des transferts de patients vers des régions moins touchées par le Covid. Le nombre de patients en réanimation est en train de se stabiliser. 4880 malades sont actuellement dans un état grave et le taux de positivité diminue à 16,9% contre 19,8% lundi dernier. Ne pas relâcher les efforts, insiste donc le ministre. Message qui est encore visiblement de mal à passer avec cette fête clandestine dans la nuit de vendredi à samedi à Joinville-le-Pont. 3 personnes sont en garde à vue. Les 300 à 400 participants sont eux appelés à se faire tester car au moins une personne est positive au Covid-19, d'où le coup de gueule du docteur Jérôme Marty. Il est médecin généraliste et président de l'Union française pour une médecine libre.
C'est assez dramatique parce que quand on est assez imbécile ou débile, passez-moi les termes, pour faire ce genre de soirée, 400 personnes en 350 mètres carrés, un lieu clos, on peut se demander jusqu'à quel point les gens qui ont participé vont oser aller se faire tester et ne vont pas se cacher en quelque sorte, perdre du temps et contaminer d'autres personnes. Une seule personne peut en contaminer plusieurs dizaines. On sait que la particularité de cette pathologie, c'est que 10% des gens contaminent 90% des autres. C'est-à-dire que vous pouvez être malade et contaminer peu, Mais vous pouvez être malade aussi et contaminer beaucoup. Et quand je dis malade, vous pouvez être très bien asymptomatique et contaminer beaucoup. On leur dit, ben, prenez votre courage à deux mains, ayez un sens civique et allez vous faire tester, parce que en ce moment même, il y a des services de réanimation qui sont en tension, il y a des commerçants, des artisans qui meurent au sens propre économiquement. Et si on veut que le confinement dure un peu plus longtemps, on fait ce genre de bêtises.
Un propos recueilli par Édouard Marguier. Les catholiques se sont mobilisés tout au long du week-end pour demander le retour des célébrations interdites depuis le reconfinement. Le Premier ministre recevra cet après-midi les représentants des cultes. La conférence des évêques de France, dont le recours avait été retoqué par le Conseil d'État, espère cette fois, Julie Pietri, avoir gain de cause.
Les évêques se sont préparés à cette réunion. La période de l'Avent qui précède Noël approche. La liberté de culte est une liberté fondamentale. Les gestes barrières, on maîtrise. Donc, la messe doit être dite en public dans les églises. Si Éric de Moulin-Beaufort, président de la conférence épiscopale, appelle au respect de la loi, il a questionné il y a quelques jours encore, dans un discours, la mesure d'interdiction.
En un temps où, pour des raisons bien compréhensibles qui relèvent de sa responsabilité, l'État cherche à renforcer sa surveillance des religions, quelles qu'elles soient. Nous devons être vigilants sur la précision des textes qui limitent ou encadrent les libertés fondamentales.
Interdire les messes, est-ce un abus de pouvoir? L'idée faisait son chemin ce week-end parmi les catholiques présents dans la rue, que ce soit à Nantes, Bordeaux ou encore Versailles, où près de 1000 personnes se sont réunies hier soir devant la cathédrale en mêlant discours et chants religieux.
Les catholiques ont l'impression que finalement, ils sont devenus une espèce en voie de disparition, qui est un sujet que le gouvernement peut facilement écarter.
La liberté de culte, c'est inscrit dans la Constitution et l'État en est garant. Donc pour nous, c'est une atteinte à nos libertés, évidemment.
En attendant la réunion d'aujourd'hui et d'éventuelles nouvelles décisions, les églises, en tout cas, restent ouvertes. Les catholiques ont la possibilité de venir se recueillir en priant individuellement.
Julie Pietri. Des prix accessibles dans les TGV après la crise, avec une tarification plus lisible et plus simple, c'est ce que promet le PDG de la SNCF dans un entretien publié dans le Figaro ce matin. Le syndicat Sudrail s'inquiète, lui, de possibles suppressions de postes. En attendant, la SNCF a perdu 5 milliards d'euros depuis le début de l'année par rapport au budget.
Il est 7h07, Agnès, l'ouverture ce matin du procès de l'attentat raté du Thalys.
Deux personnes légèrement blessées grâce à l'intervention de plusieurs passagers qui ont sans doute permis d'éviter le pire. Dans le box de la cour d'assises spéciale de Paris, quatre hommes, dont l'assaillant lui-même, Ayoub El Kazani, revenu de Syrie en compagnie de celui qui deviendra ensuite le coordinateur des attentats du 13 novembre. Car clairement, Charlotte Piré, l'attentat du Thalys ce 21 août 2015 est étroitement lié à celui qui surviendra au Bataclan sur les terrasses du 10e et au Stade de France quelques mois plus tard.
Lorsqu'il arrive armé jusqu'aux dents dans ce wagon 12 du Thalys 9364 à destination de Paris, Ayoub El Kazani est loin d'être un loup solitaire ayant décidé tout seul de son attaque. Derrière lui, il a le bureau des opérations extérieures de l'État islamique, ce groupe chargé d'organiser des attentats en Europe notamment, qui a décidé, après un entraînement de 9 jours, de le renvoyer en Belgique avec une mission précise. Sur le chemin qui le mène d'Istanbul à Bruxelles, guidé par un éclaireur, Ayoub El Kazani est un temps accompagné d'Abdelhamid Abaoud, le coordonnateur des attentats du 13 novembre lui-même. Puis en Allemagne, il est récupéré par le chauffeur des commandos terroristes qui affluent alors vers l'Europe, qui compte aujourd'hui parmi les accusés de ce procès, mais aussi celui à venir des attentats du 13 novembre. Tout ce petit monde se retrouve en Belgique. Certains s'attellent à la préparation des attaques du Bataclan, des terrasses et du Stade de France. Quelques jours plus tard, Ayoub El Kazani, lui, monte dans ce Thalys, s'enferme dans les toilettes et en ressort, torse nu, une Kalachnikov en bandoulière.
Et puis au procès des attentats de janvier 2015, la plaidoirie de l'avocat de Charlie Hebdo qui était prévue ce matin va être une nouvelle fois reportée. L'un des accusés est toujours malade du Covid. Le président de la Cour d'assises spéciale de Paris devrait donner ce matin un nouveau calendrier. Et dans un entretien publié par la revue en ligne Le Grand Continent, Emmanuel Macron regrette la relative timidité du soutien international après les attaques de ces dernières semaines contre Samuel Paty ou à Nice. Le chef de l'État qui réaffirme que la France ne va pas changer son droit sur la liberté d'expression parce qu'il choc ailleurs. Emmanuel Macron qui va s'entretenir aujourd'hui avec Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine. Une rencontre discrète alors que l'Élysée travaille déjà avec l'équipe démocrate. Aux États-Unis, ce sont les mémoires de Barack Obama qui suscitent aujourd'hui la plus grande curiosité. 768 pages. Le livre sort demain. Barack Obama était hier soir l'invité de la mythique émission 60 minutes sur CBS. L'occasion pour le 44e président des États-Unis de beaucoup parler du 45e. Sébastien Payrour est à New York pour France Inter.
Le soir de l'élection en 2016, le président Obama a appelé Donald Trump vers 3h du matin pour le féliciter et Trump aurait déjà dû faire pareil avec Joe Biden.
Mon conseil au président Trump, c'est, si vous voulez à ce stade avancé du jeu, être considéré comme quelqu'un qui a fait passer le pays en premier, il est temps pour vous de faire la même chose. Je pense qu'il aurait dû concéder la défaite probablement le lendemain de l'élection. Mais le président n'aime pas perdre, rappelle Obama, et c'est dangereux d'après lui. C'est un pas de plus vers la délégitimisation non seulement de la nouvelle administration Biden, mais aussi de la démocratie en général. Et c'est une voie dangereuse. Dans la bouche d'Obama, Trump est un enfant, un catcheur, un dictateur capable de tout pour garder le pouvoir, qu'il doit pourtant rendre le 20 janvier à midi, comme les autres avant lui. Si Donald Trump fera la même chose, on verra. Jusqu'à présent, on ne dirait pas. Mais j'espère que le printemps est éternel. Obama avait laissé un mot à Trump dans le bureau ovale. Nous sommes juste ici des occupants temporaires. C'est à nous de laisser les instruments de notre démocratie aussi forts que nous les avons trouvés. New York, Sébastien Paour, France Inter.
En France, une terre promise est publiée chez Fayard. Le dernier livre de Barack Obama s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde. 10 millions tout de même pour sa femme, Michelle Obama. Le Vendée Globe et Alex Thompson fait toujours course en tête, creusant même son écart sur Jean Le Cam et Thomas Ruyan. Jérémy Veillou, qui est rentré au Sable d'Olonne pour réparer, doit décider dans la journée s'il repart ou non. Et puis, que se passe-t-il au sein de l'équipe de France féminine de foot? La capitaine Amandine Henry prend aujourd'hui la parole et décrit un chaos total lors du Mondial 2019. Une fois de plus, Cédric Guillou, ce sont les méthodes de la sélectionneuse Corinne Diacre qui sont pointées du doigt.
C'est une nouvelle attaque contre Corinne Diacre et elle vient d'une joueuse emblématique de l'équipe de France, Amandine Henry, 92 sélections, capitaine des Françaises, avant d'être écartée lors du dernier rassemblement d'octobre par la sélectionneuse des Bleus.
Franchement, quand elle m'a appelée, l'appel a duré 14 secondes, 15 secondes. Je reste sans voix, je suis choquée, je m'attends pas à ça. Je lui dis, ok, bon match, au revoir. C'est tout. Je m'en rappellerai toute ma vie.
Et Amandine Henry d'enchaîner sur la Coupe du Monde 2018 en France et le malaise qui était le sien et celui de plusieurs joueuses durant la compétition.
Je voyais des filles pleurer dans leur chambre. Moi, personnellement, je pleurais parfois dans ma chambre parce que j'avais envie de vivre cette Coupe du Monde. Et au final, c'était l'atmosphère, c'était le management, c'était l'ambiance générale qu'il y avait. La confiance, c'est la base de toute relation. Ça a été un chaos total, en fait.
Amandine Henry espère que cette prise de parole publique fera bouger les choses pour des filles qui en grande majorité ne veulent plus travailler avec Corinne Diacre et pas dans 3 ans, ajoute-t-elle, alors que les Françaises doivent participer à plusieurs grandes compétitions internationales.
Et justement, Corinne Diacre doit dévoiler jeudi la liste pour le prochain match des Bleus. Ce sera contre l'Autriche le 27 novembre à Guingamp.
Merci Agnès, c'était le journal d'Agnès Soubiran.